que je n'ai pas encore salué. Je suis contente de pouvoir partager le message aujourd'hui. Et en fait, pendant la louange, j'étais en train de me dire, mais j'ai une joie dans mon cœur de pouvoir vous partager ce que j'ai reçu, j'ai l'impression, de Dieu. Et c'est vraiment... je m'en réjouis. Des fois, on dit c'est un plaisir, mais il y a comme quelque chose, une émotion dans mon cœur qui est plus que du plaisir, c'est une joie, vraiment. Je me réjouis de ce que Dieu va faire et déjà de ce qu'il a pu déjà œuvrer. Enfin, moi, j'ai été touchée vraiment dans la louange et je crois qu'il veut poursuivre dans cette dynamique de profondeur de ce qu'il veut accomplir aussi dans nos vies. Si vous êtes d'accord, je vous invite juste à fermer les yeux. On a bien loué Dieu, mais je sentais qu'il fallait comme se connecter à Dieu tout à nouveau pour que ce que je vais vous partager puisse vraiment avoir aussi un sens à vos vies. Et je vais t'accueillir, Saint-Esprit, merci, parce que t'es déjà là, en fait. C'est pas besoin de t'accueillir, mais juste viens là où ça doit être touché dans nos vies. Je vais t'inviter à venir déjà dans ma propre vie, t'inviter aussi à bénir chacun et faire cette œuvre que tu as prévu de faire aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas par hasard que nous sommes venus ici pour te louer. Ce n'est pas par hasard que peut-être on a été invité pour la première fois. Ce n'est pas par hasard. C'est toi qui nous as placé ce rendez-vous. Amen. Alors ça fait... C'est tout bon. La technologie est OK. Ça fait quelques semaines que nous abordons le sujet de l'Église et de sa raison d'être au sens plus large, mais également particulièrement en ce qui concerne l'Église Passion. Et on a pu saisir par l'excellent message de David le 20 août que l'Église n'est pas une idée qui tient sa source de l'être humain pour se réunir entre chrétiens, mais c'est un projet de Dieu qui est là dans son cœur depuis le début, depuis la création. Rassembler sa famille. La parole de Dieu nous dit « on a un Père dans le ciel et il rassemble sa famille ». Lorsque Jésus était sur terre, alors qu'il n'y avait pas encore énormément de personnes qui connaissaient Jésus, il était avec ses 12 disciples, il en a même parlé à ce moment-là. Et il a dit à Pierre, avant qu'il meure, dans Matthieu 16, « je bâtirai mon Église ». Avant qu'il y ait une tonne de chrétiens, avant qu'il y ait des gens qui se réunissent et qui réalisent que Dieu est vivant. L'Église prend sa source vraiment en Dieu. Et pour introduire mon message, j'aimerais rappeler une chose importante qui, pour la plupart, ça semble une évidence, mais je voulais quand même le souligner. Nous sommes, toi et moi, son Église. L'Église n'est pas simplement une construction de pierre, de ciment, un bâtiment. Dans 1 Pierre, c'est le cas de le dire, chapitre 2, on peut lire ces mots. Approchez-vous de lui, donc de Dieu, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire à la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Nous constituons sa maison, son Église, de par notre vie que nous lui avons consacrée et par notre désir aussi de le servir. Alors que je me suis plongée cet été un peu dans les épîtres, ce sont en fait des lettres que Paul a écrites pour différentes églises. À tout bout de champ, il encourageait les chrétiens de l'époque, mais aussi nous aujourd'hui, en les lisant, à tenir ferme dans notre foi, à partager la bonne nouvelle, à rester unis à Christ, à prier, mais aussi à rechercher à devenir totalement saints. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, que votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus. » Et aussi dans 1 Thessaloniciens 3, 13, il dit « Qu'il affirme votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. » Alors voici quelques versets que j'ai mentionnés aujourd'hui. Mais il y en a plein d'autres qui parlent de cette sainteté. Et j'ai été interpellée par l'insistance, en fait, de Dieu, par les écrits de Paul, à nous inviter, en tant que chrétiens, à vivre dans la sainteté. Alors que je lisais ces épîtres, j'avais ce mot « saint », « sanctification », « sainteté » qui, chaque fois, pof, était mis en évidence devant moi. Et quand ça se passe comme ça, c'est que Dieu veut parler à notre propre cœur. Et je crois que Dieu aimerait me parler en premier, mais aussi il a quelque chose à nous dire, à tous, sur ce sujet de la sainteté. Je me permets de revenir au dernier culte. Qui c'est qui était présent lors du dernier culte? Juste lever un petit lever de main comme ça. Vous vous souvenez, on a présenté l'église. Et en fait, Bernard, à ce moment-là, c'était un culte un peu information-vision. Et Bernard est monté sur scène. Vous vous souvenez ce qu'il nous a dit? Il nous a interpellés en disant « Qui connaît ici une église parfaite? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est parfait ?» Peu de personnes ont levé la main, pour ainsi dire aucune, j'allais dire. La conclusion à cette interpellation, elle est intéressante. Nous sommes tous imparfaits. Et alors que nous formons l'Église Passion, nous la rendons ainsi imparfaite. Et c'est le cas pour toutes les autres églises aussi, également. Nous sommes des personnes sauvées par Jésus, qui sommes en chemin de sanctification. Qu'est-ce que la sanctification ? C'est ce processus de purification des péchés qui nous permet de transformer progressivement dans une vie sans péché, à l'image de Jésus qui était parfait. Il y a cette réalité que nous sommes imparfaits encore, et pourtant, le plan de Dieu pour chacun, c'est que nous soyons complètement saints. J'aimerais juste encore ressouligner ce verset, 1 Thessaloniciens 5, c'est une réalité. Dieu veut nous conduire lui-même à une sainteté totale. Tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables. Dans d'autres passages, nous lisons « Soyez donc parfaits comme Dieu est parfait, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » 1 Pierre 1 dit encore « Dieu vous a appelé et il est saint. Devenez saint dans toute votre conduite. » Il dit plus loin encore, « Soyez saints parce qu'il est saint, lui, Dieu. » Je veux dire, comment ne pas être interpellé par cette notion de sainteté? Et je crois que c'est une invitation. Là, je me retrouve à me dire, mais comment on peut devenir saint complètement? Ben, c'est une question qu'on peut se poser, et je me la pose. Et je vais essayer un peu de faire un parcours avec vous pour y répondre. Tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle. La parole nous dit, comprenons bien ceci dans Romains 6, 6. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ, alors le péché qui fait partie de nous est détruit. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Dès le moment où on le reconnaît, que l'on a un péché, ou qu'on a péché tout simplement, que nous nous repentons et renonçons à tout ça, à tous ces péchés, Jésus prend sur lui, à la croix, nos péchés. Du moment où on demande pardon à Dieu et qu'on renonce. Cela nous permet de vivre une vie nouvelle, sans condamnation et sans être esclave du péché. La parole nous parle de fruits de repentance et c'est comme si, en fait, à un moment donné, il y a notre vie, on est touché par Dieu, on demande pardon, mais il y a un changement et on le voit. Il y a le fruit, il y a ce qui en découle, une vie transformée. Nous pouvons quitter une vie immorale, pleine de désordre, et vivre libre pour Dieu. Si nous reprenons les lettres que Paul a écrites, par exemple, à l'église de Rome, donc l'épître aux Romains, on voit un certain passage qui est assez interpellant, où Paul nous parle d'un combat qu'il vit à l'intérieur, plus particulièrement dans Romains 7, 19. Il dit « Je veux vivre pour plaire à Dieu, je consacre ma vie, j'aimerais lui faire le bien, mais je suis encore poussé à faire le mal. » Et il est tiraillé entre cette réalité. Je veux plaire à Dieu, mais je n'y arrive pas. En restant sur ce passage, on peut se dire, bon ben, finalement, c'est peine perdue, quoi. Franchement, être saint et plaire à Dieu, Paul, il n'y arrivait pas. C'est comme si on se débarrasse du péché, puis hop, il revient au galop. Tu luttes contre le péché et hop, tu retombes dans la défaite. Tu luttes et hop, tu retombes dans la défaite. Une vie de yo-yo. Je ne sais pas si ça vous parle, des fois. Et certains commentaires ont apporté un éclairage intéressant que je vais vous partager maintenant sur ce combat, justement. Et ils parlent de qu'en fait, Paul expérimentait ce combat concernait en fait la vie charnelle de Paul quand il était encore un juif religieux. Donc avant qu'ils deviennent chrétiens et avant qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Paul, il explique que, en fait, s'il se laisse aller dans sa nature humaine, il va faire tout l'inverse de ce que Dieu veut. Il n'arrive pas de lui-même à atteindre les standards de Dieu. Et plus tard, il souligne vraiment l'importance d'abandonner le péché, de se convertir et de faire toute la place au Saint-Esprit pour vivre sous la loi du Saint-Esprit. Et c'est là la clé, en fait, qui va nous permettre de vivre une vie qui plaît à Dieu, c'est de laisser le Saint-Esprit. C'est grâce à l'intervention du Saint-Esprit dans ta vie, dans ma vie. Et Paul a été accompagné tous les jours de sa vie, finalement, quand il a reçu le Saint-Esprit pour dire stop au péché. Et c'est cette force-là de Dieu qui était en lui qui lui permettait de résister. Romains 8, verset 2 dit « Maintenant je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il y a comme un changement de régime, comme on dit. La sainteté est possible si on laisse le Saint-Esprit prendre toute la place et qu'on accepte aussi de vivre une œuvre de purification dans nos cœurs. Jean-Baptiste, il a annoncé la venue de Jésus. Il a dit, à la fin de Matthieu 3, 11, il a dit, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est intéressant qu'il parle de feu. Et Jésus a confirmé cette parole aussi. Il a dit, je vais vous envoyer le Consolateur. Il va vous convaincre tout ce qui concerne le péché, de justice et de jugement. Quand l'Esprit Saint vient dans nos vies, il œuvre non seulement pour te booster, pour te donner de la force, pour t'encourager, pour te permettre de réaliser que Dieu il t'aime inconditionnellement, comme ça a été dit. Ça te fait du bien, c'est chouette. Mais le Saint-Esprit met aussi en lumière des aspects et il met en évidence des choses que tu dois encore régler. Il te donne ses convictions, la conviction de péché. Et je crois que le Saint-Esprit, on n'arrivera jamais à devenir saint sans être accompagné du Saint-Esprit. Comme un feu qui vient comme purifier notre cœur. Tout ce que tu cèdes à Dieu passe par ce feu. Et ce qu'il en ressort, c'est ce qui est précieux finalement. Comme avec le feu et l'or, on enlève les impuretés, les choses remontent quand on purifie de l'or. Il nous est impossible de prétendre de devenir saint si nous n'acceptons pas l'action de la puissance du Saint-Esprit. Pas juste sa présence, mais la puissance du Saint-Esprit. Je suis désolée de vous dire ça, mais sans le Saint-Esprit, j'aurai une vie religieuse. Une vie avec des lois qui enferment. Tu dois pas faire ça, tu dois faire ça. Et c'est tout par l'effort humain, en fait, que tu règles ta vie. Mais c'est pas par une vie transformée, finalement, de l'intérieur. Et c'est ça que Dieu, il aimerait faire. Le Saint-Esprit va te permettre, il va me permettre de sortir de ce cycle de lutte, d'effort, défaite. Et il va changer ces luttes qui sont logiques, en fait, pas logique, mais légitime, quand on lutte contre le péché, à un moment donné, le Saint-Esprit va nous amener dans la victoire. Et c'est comme une opération miraculeuse, en fait, qui se passe au travers du feu purificateur. La sainteté prend place dans nos vies. Et il y a une passion pour Dieu qui grandit dans notre cœur. Et en même temps, il y a la haine de ce qu'est le péché qui est activée dans nos vies. Pas de compromis, ni de double vie, c'est plus possible. Ok, moi je vis, j'ai une vie réglo quand même. Pas de compromis, non. Mais par contre, j'ai 2-3 petits péchés mignons qui ils sont pas trop dérangeants. Ça, Dieu, il veut aussi les traiter. Ces petites choses qu'on sait, dans un certain sens, qui ne lui font pas plaisir, mais qu'on tolère encore. Ce qui semble humainement mauvais, et même, je pousse le bouchon et je dis même ce qui humainement nous paraît bon des fois, à nos yeux, Dieu veut l'ôter pour amener ce qui est du divinement excellent. On a l'impression qu'il y a des choses qui, tu dis, mais c'est juste tellement bon. Mais on ne réalise pas l'excellence de Dieu qu'il y a derrière. Dieu, il veut nous rendre saints. Complètement saints. Et ce qui est génial, c'est qu'on a un Dieu qui est tellement merveilleux. Quand il nous invite finalement à être saints, c'est qu'il nous donne la solution pour être saints. Premièrement, grâce à la mort de Jésus, de son Fils, qui a pris tous nos péchés, nos crimes et nos blessures. Mais en plus, il nous donne le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, pour nous rendre participants à ce processus de transformation où on peut renoncer au péché et on le laisse nous purifier. Il y a tout qui est accessible, en fait. Cette possibilité de sainteté, elle est réelle et elle est active, elle est comment dire, possible en Dieu. Et ce n'est pas un Dieu qui va venir et dire « mais tu ne dois pas faire ça ». De l'extérieur, attention, je te surveille. Mais il vient de l'intérieur faire une œuvre de transformation. Et on a un Dieu tellement incroyable. On l'a chanté, on l'a réalisé peut-être dans la louange, tu as eu peut-être des déclics, tu as réalisé que Dieu était un Dieu d'amour, mais qui est tellement patient avec nous, tellement patient avec moi. Mais attention, cette patience ne veut pas dire qu'il tolère le péché. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Il est patient, mais il ne supporte pas le péché. Alors mon but, ce n'est pas de vous donner des listes maintenant, puis de vous énumérer ça, 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 ça. C'est mauvais, mais c'est juste que je vais vous donner 2-3 versets ou chapitres à lire, juste si vous avez un petit crayon ou une petite feuille. Prenez ça à la maison, méditez là-dessus. Il y en a d'autres de passages, mais j'aimerais juste vous donner quelques références où Dieu dénonce ce qui l'irrite, ce qui est de mauvaise pratique, parce que Dieu, il est clair dans la parole de Dieu à ce niveau-là. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, il dit « Ceux qui font le mal n'hériteront pas du royaume. Ceux qui adorent de faux dieux, qui sont adultères, qui couchent avec des jeunes gens, des voleurs, des avares, des gens qui boivent trop, qui insultent les autres. » Dans Galates 5, il parle de sorcellerie, des gens qui détestent d'autres personnes, qui sont dans la haine, qui se disputent, qui sont jaloux. Des gens qui font des clans, qui divisent, qui veulent tout posséder, boire beaucoup, encore il reparle de la nourriture, c'est quand même un défi peut-être pour nous en tant qu'humains. Ceux qui sont infidèles, meurtriers, débauchés, dans Apocalypse 21. Et ça, c'est tous des versets que vous pouvez trouver dans la Bible. Alors je ne suis pas là pour dire, prends cette liste et regarde où tu en es. Rien de là, parce que c'est Dieu qui ne tolère pas du péché, c'est juste ça. J'aimerais juste vous dire qu'il est patient, mais qu'il ne tolère pas le péché. Et là, on le voit clairement. Il désire transformer notre vie pour nous amener à 100% de sainteté. Imaginez, dans les temps de canicule que je vous invite chez moi, je vous sers une bouteille d'eau parce que purée, ce qui fait chaud. D'ailleurs, je vais profiter de boire. J'ai un peu la bouche sèche. Non. Je pose une belle bouteille dégoulinante, d'eau, parce qu'il y a un contraste bien sûr entre la chaleur caniculaire qu'il y a dehors et puis la fraîcheur de la bouteille que je vous présente. On papote, et finalement, votre attention est attirée sur l'étiquette, vous dites « mais c'est quoi cette bonne eau qu'elle me sert ?» Et là, vous voyez, mais il est écrit « 98% d'eau pure et 2% d'eau d'égout ». Là, vous êtes mal. Hein. Soit vous courez aux toilettes, je ne sais pas, mais vous êtes mal. Et c'est la même chose. Dieu aimerait nous transformer tout au long de notre vie pour nous amener dans du 100% de sainteté. Ça gratte un peu, ce 100%. En tout cas, moi, oui. C'est pas que je ne veux pas être à 100% pour Dieu et sainte, mais c'est juste que cette possibilité d'arriver à 100%, mais... ouais. Alors que je préparais ce message, et à chaque fois, je crois que je vous le dis, Dieu, il me secoue dans mes pensées, et il y a des choses que je réalise que je pensais faux avant. Et j'aimerais juste vous partager. Pour moi, c'est clair que Dieu, il m'aime. C'est aussi clair que je l'aime, et je me sens comprise par lui. Dans mes défis, mon cœur, c'est vraiment de pouvoir vivre toujours plus pour lui, de lui être consacrée. Je me remets souvent en question, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'aimerais vraiment te faire plaisir. Et puis après, je dis à Dieu, mais en fait, tu vois, quand même, on est dans un monde imparfait, il y a de la débauche. Enfin bref, tu nous veux 100%, je suis OK, j'y travaille, mais 100% sainte, mais bon, voilà, merci Seigneur, hein, parce qu'il y a de la grâce, hein, ouf. Ah, puis t'es patient, parce que en fait, tu me laisses des sursis un petit peu dans certains domaines où je suis en travail. Et j'ai ce verset qui me vient à la tête, ah ouais, pff, Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Ah, merci Seigneur, tu me fais grâce. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu sais, ma grâce ne s'applique pas dans ta vie pour te laisser dans 2% de péché ou une période de sursis. Mais ma grâce, elle s'applique pour te sortir du péché à 100%. Ne confonds pas patience et grâce. Dieu nous aime, c'est clair, mais il n'aime pas le péché. Et il veut nous délivrer complètement de ce qui nous charge, de ce qui nous pèse et de ce qui est défiant dans nos vies. Oh là, j'ai loupé des coches. Voilà. Jésus, en tant qu'homme, était rempli, vivait finalement dans un monde comme nous un peu. Il y avait des religieux, des débauchés, il y avait des prostituées, il y avait plein de choses, des tentations aussi. Mais lui, il est resté saint. Et c'est ça qui est encourageant. Lui, c'est notre modèle de sainteté à 100%. Comprenons aussi que Dieu nous veut saints en profondeur. Et là, j'aimerais juste reprendre une image que je vis en fait chez moi. J'ai un jardin. Et bien, je dois vous avouer que parfois, je suis un peu flemmarde. J'enlève les mauvaises herbes et je vous avoue, je retire un peu les tiges et les feuilles, en fait, ce qui est un petit peu là apparent. Alors, c'est beau en surface, tout va bien. Ça dure quelques temps, il suffit qu'il y ait un peu de pluie, puis pouf, ces mauvaises herbes ressortent de plus belle. Mais le problème, c'est que je n'ai pas réglé à 100% le problème à la racine de mes mauvaises herbes. Vous connaissez ça ? Tu nettoies un peu ta vie, mais en fait, ça revient. Est-ce que franchement, tu as touché la racine de ce qui te touche au profond ? C'est la même chose avec Dieu. Il veut venir en profondeur, purifier nos cœurs, restaurer en profondeur, faire de l'espace pour mettre sa sainteté, sa présence. Et en laissant dans nos vies tous les droits à Dieu, il va prendre la place qu'on lui donne. Dieu nous invite à nous mettre à son service, à lui plaire en lui cherchant à l'honorer. Il y a un texte qui dit qu'on est des vases d'honneur pour lui, sanctifiés, utiles à son maître, propres à toutes bonnes œuvres. Et ce matin, peut-être tu prends conscience en fait que ces temps, tu n'as pas trop fait attention à ton hygiène de vie. Tu as eu des soucis, tu n'as peut-être pas résisté à des tentations. Tu as peut-être été dans des querelles, de la critique, de la jalousie, tu es tombé dans le mensonge. Mais Dieu t'appelle à prendre une douche spirituelle dans sa présence. Et je crois vraiment que le ciel est ouvert ce matin sur ce culte particulièrement. Et je prophétise vraiment une pluie bienfaisante sur chacun d'entre nous, comme une douche qui vient nous purifier en profondeur. Jésus veut se rappeler à toi comme étant ta justice et ta sanctification. Alors tu te souviens, tu t'es converti, tu as donné ta vie, tu as eu la foi pour entrer dans cette démarche. Et c'est la même chose. On est sanctifié aussi par la foi. Ce n'est pas par tes œuvres bonnes que tu deviens saint ou sainte. Parce que tu parles bien, parce que tu pries bien, parce que tu chantes bien, tu prophétises bien, ou parce que tu ne fais pas ça, ou parce que tu fais ceci, ou que tu te retiens dans certaines choses. Ce n'est pas ça qui fait que tu, finalement, ça te rend accessible, ça rend la sainteté accessible, pardon. Parce que tu vas finalement tomber dans un légalisme, une vie de loi qui vont t'enfermer. L'effort humain et l'autodiscipline, c'est une bonne chose dans certains domaines, mais ça a une apparence de sainteté et ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu l'acteur de notre sanctification. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas par tes efforts que tu te sanctifies, par tes bonnes œuvres, mais c'est l'intervention divine qui enlève cette trace du péché, de l'offense, de la blessure. C'est par cet attouchement du feu de Dieu, du Saint-Esprit, la présence forte qui t'amène finalement à la repentance. Et finalement, la sainteté est visible dans ta vie. Et Jésus a en horreur vraiment ce semblant de sainteté. Et j'aimerais avec vous prendre quelques versets dans Matthieu 23, versets 25 et 28. Il dit « Quel malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, Ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisien aveugle, nettoie d'abord l'intérieur du plat et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Ce qu'il parle là, c'est il parle du cœur. Si le cœur pur, si tu as un cœur pur, tu vas agir différemment, tu auras des bonnes actions. Et ce n'est pas parce que tu agis bien que finalement ton cœur il n'est quand même pas tordu. Quel malheur pour vous maître de la loi, et ça c'est fort, pharisien. Enfin bref, je passe. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os des morts et de toutes sortes de choses pourries. De la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. C'est ça. L'humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est ça qui est important. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Dieu, il aimerait toucher notre cœur. Le perfectionnisme humain met son importance dans les tout petits détails apparents. Il regarde pas à ce qui se passe vraiment dans ton cœur ou dans le cœur de l'autre ou dans ton cœur à toi-même. Il révèle les erreurs des autres. Il va dénoncer, condamner les autres. Ah, mais ceux-là, ils ont encore du chemin. Hein. Ouh. Nous avons parfois tendance justement à agir avec cette nature humaine qui fait sa propre justice et qui juge. Un verset aussi intéressant dans Luc 6, encore, je vais lire. Tu regardes le bout de la paille dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, à toi, tu ne le remarques pas. En d'autres mots, comment tu peux faire la leçon à l'autre alors que toi, tu as encore à régler des choses dans ta vie? Et là, je passe un petit moment d'authenticité par un témoignage personnel. Et quand j'étais en train de le revoir à la maison, je me suis dit, mais je suis folle de vous partager parce que voilà, c'est un petit peu un moment de vulnérabilité. Donc prenez ça et puis aimez-moi à la fin du message, s'il vous plaît. L'autre jour, je suis allée à une séance de The Chosen et puis on était en train de faire la liste, enfin la file d'attente par rapport à nos noms de famille et tout ça. Puis on était bien, une quinzaine devant moi et tout, on attendait et tout. Puis j'ai vu certains chrétiens, ils étaient déjà, enfin certaines personnes invitées, pas tous des chrétiens, étaient là, adossés au bar et ils papotaient, certains regardaient qui était là. Et puis, à un moment donné, j'ai observé, il y a un monsieur, quelqu'un, je ne veux pas dire un monsieur, parce que vous allez savoir qui c'est, il a passé derrière et il a salué la personne qui donnait les billets. Et moi, du coup, il allait le chercher, sans faire la file. Et moi, mais ça m'a énervée, je ne vous dis pas, parce que je me suis dit, mais finalement, on est tous là à la même. On est, je veux dire, c'est... Il aurait pu faire l'attente aussi, comme tout le monde. Je ne vois pas pourquoi il peut passer, parce qu'il connaît le monsieur qui donne les billets. Moi, ça m'a saoulée, vraiment. Je vous parle après, quelques semaines plus tard. J'étais à Beauvais et j'étais super speed, puis je devais faire les commissions. Je suis allée au Lidl. Bon, c'est un parking un peu spécial. Il est souterrain, puis en même temps, il y a une place à l'extérieur. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comme c'est fait. Et voilà qu'on entre comme ça, dans le souterrain, et quand on ressort, on doit faire tout un chemin autour de certaines voitures qui se seraient arrêtées sur l'extérieur pour faire le tour et sortir à la même. Alors que juste en face, la sortie, elle est juste en face. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, Diane, c'est bon, hein, t'es speed, tu dois y rejoindre ta famille, on y va. Je vais tout droit. Pourtant, les flèches sont claires, hein, mais je savais que je passais par un raccourci. Et puis, en fait, je me suis fait arrêter par quelqu'un qui avait fait, lui, le tour. Et il a klaxonné et il s'est mis dans tous ses états. J'étais là, ouais, bon, ben, mon gars, je te laisse la priorité. Je me suis arrêtée parce que je ne voulais pas lui prendre la priorité. Ce n'était pas ça. C'était juste que j'étais un peu flemmarde. Et puis je me suis dit, bon, ben, il n'y a personne, ça va bien. Mais quand je me suis aperçue qu'il devait passer par là, ben, je l'aurais laissé passer, j'étais arrêtée. Puis je dis, mais passez, monsieur.
Et puis là, il dit bum bum, gros coup de klaxon, et puis il s'énervait avec des gestes dans tous les sens. J'étais là, bon, c'est bon. Et ça m'a douchée, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, finalement, est-ce que ce que j'ai vécu au cinéma, c'était pas la même chose? Je me suis énervée contre quelqu'un qui prenait le chemin plus court, et puis moi, j'ai pris le chemin le plus court dans mon parking. Mais mon intention, c'était pas de prendre la priorité sur tout le monde. C'est peut-être là la différence. Enfin bref, c'était de la flemmardise. Mais pour dire que ça m'a interpellée. Et je me suis dit, ben c'est ça. T'as une poutre dans l'œil, tu dis à l'autre, ben t'aurais quand même pu faire la file, et que toi, tu passes aussi assez rapidement sur le parking pour sortir. Donc en premier, on est gardien de nos vies propres. Ce qu'on a à régler, il faut qu'on s'en occupe avant de regarder aux autres ce qu'ils ont à régler. Alors comment garder, je vais finir bientôt, ne vous inquiétez pas, comment garder notre cœur dans la sainteté? Comment tenir bon dans ce monde finalement imparfait? On peut résister à la flemmardise. Comment résister aux tentations de prendre des raccourcis ou bien d'autres choses? Dieu nous donne des pistes dans sa parole et j'aimerais juste rapidement vous parler de ces pistes. Dans Matthieu, chapitre 26-41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans Jacques 4-7, « Alors obéissez à Dieu et résistez à l'esprit du mal, il va fuir l'un de vous. » Le temps passé dans la prière nous rend forts et vigilants pour résister quand on a une tentation qui rôde autour de nous. Dieu nous encourage aussi à se mettre à l'écart du mal. Évitez le mal sous toutes ses formes, dans 1 Thessaloniciens 5, 22. Voici ce que nous trouvons dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, de l'envie, de l'orgueil, des choses qui sont liées à la richesse. Et là, Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu. Et quand on lit la Bible, en fait, on réalise que le Saint-Esprit la rend vivante pour nous parler personnellement, pour nous toucher au plus profond de nos cœurs. Car la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle va même juger nos sentiments, nos pensées. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit qui rend vivante cette parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ça veut dire qu'elle est censée nous parler, vous êtes d'accord? Pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Dieu, ce qui est génial, il nous invite aussi à prendre notre place dans l'Église, pour être entouré, accompagné, être aimé. Pour progresser en fait dans la foi ensemble, on a besoin des uns et des autres pour se soutenir, se protéger, devenir mature ensemble, grandir à l'image de Jésus tous ensemble. Dieu a prévu que la famille qui est l'Église, ton frère, ta sœur dans la foi, puisse t'accompagner vraiment dans ce chemin de sanctification. Et il nous dit, avouez-vous vos fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. On a besoin des uns et des autres. Et Dieu nous qualifie aussi par son Saint-Esprit pour discerner le péché et accompagner avec amour et bienveillance ceux qui se trompent de chemin. On peut porter le fardeau de l'autre aussi qui nous côtoie, ça nous touche. Galates 6 nous dit « L'Esprit Saint nous conduit ». Et on peut voir aussi quand quelqu'un, un frère et une sœur, commet une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur et amour. Et j'aimerais conclure tout simplement maintenant, en invitant déjà le groupe Louange, à vous dire de lire un message sur la sainteté. D'écouter un message sur la sainteté, ça ne va pas vous rendre plus saint. Mais c'est de multiplier les rencontres avec Dieu. C'est de vivre ces rencontres brûlantes avec le Saint-Esprit qui va te permettre d'être passionné de Dieu et finalement de haïr le péché et d'y renoncer. Vous pouvez jouer un tout petit peu un fond musical, s'il vous plaît. Je crois que Dieu nous interpelle aujourd'hui à renoncer, à plaire à Dieu finalement par nos propres forces. De quitter vraiment ce légalisme qui est toujours là, ou ce perfectionnisme humain qui nous colle à la peau, mais qui en fait nous fait des dégâts dans nos vies. Alors ouais, il soulage notre conscience, puis on se dit « cool, j'y arrive », mais il ne nous libère pas réellement de la marque du péché. Tu te dis « ouf, je gère ma vie », mais tu vis toujours et encore les conséquences du péché. Et peut-être que ce matin, tu t'es dit « ben moi, c'est droit ça ». Le jardin où j'enlève les mauvaises herbes par les tiges et par les feuilles, ça c'est droit moi. J'arrive pas à traiter les choses en profondeur jusqu'à la racine. À l'église ici, il y a plusieurs personnes qui sont formées pour t'accompagner. Des fois ça prend du temps pour finalement que Dieu touche à la racine, ce qui te colle à la peau, ce qui te challenge, ce qui te pèse, ce qui te défie. Je vous invite ce matin, si vous êtes d'accord, vous êtes en toute liberté, invité à vous lever. Je crois qu'on va inviter le Saint-Esprit. On en a parlé tout le long du message, enfin j'en ai parlé tout le long du message. Et j'aimerais que vous puissiez dire, Saint-Esprit, là je suis là pour toi. La sainteté à 100%, je sais qu'elle est faisable, elle est réelle. Qu'avec toi, Saint-Esprit. Et c'est ce que je veux vivre réellement. Et ce matin, peut-être que Dieu te demande de te réengager à nouveau sur ce chemin de sanctification. Vous savez quoi, Jésus, il vient chercher une église sainte, pure, sans défaut, sans ride, renouvelée, belle, jeune. Et c'est ça qu'il désire, libérer dans nos vies. Cette sainteté à 100%. Merci Saint-Esprit de venir maintenant mettre en lumière des choses dans nos vies, qu'on puisse te les abandonner maintenant. C'est peut-être juste le fin moment, parce que c'est le moment parce que tu te dis ça fait tellement longtemps que je lutte là contre. J'ai envie d'être affranchie, j'ai envie d'être déculpabilisée, j'ai envie d'être libre. Et j'aimerais t'inviter simplement à venir devant si tu te sens aussi peut-être dans cette démarche de dire oui, cette sainteté, je viens la chercher. Au pied de Jésus, je viens devant toi. Il y a une énorme place devant cette scène et je me dis, mais comme signe d'abandon et de désir d'être sainte, saint et de recevoir ce feu qui purifie dans ta vie, si tu veux le démontrer, tu sens-toi libre. On a tous les yeux fermés. Juste que quand vous venez devant, ouvrez les yeux quand même. Je crois que le Saint-Esprit veut nous purifier. Réellement en profondeur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il y a des moments comme ça, des fois, c'est des rencontres puissantes avec le Saint-Esprit. Puis comme je l'ai dit au début, puis je crois que ce n'est pas si anodin que ça, si tu es là, c'est que tu avais besoin d'entendre ce message ou que Dieu voulait te le rappeler. Peut-être que tu as tout réglé de ta vie, ben tant mieux. Ouvre-toi au Saint-Esprit, ouvre-toi à la présence de Dieu qui est vraiment cet acteur de la sanctification. Et on va prendre un chant. Et pendant ce chant, laisse-toi toucher. Tu as encore le temps de venir montrer à Dieu que tu veux vraiment t'agenouiller devant lui pour lui dire « Oui, je te veux à 100%. » Alléluia.
Seigneur, si on répond à cet appel, à ce message, c'est pas parce qu'il faut pour être aimé. Seigneur, c'est parce que j'ai envie d'être saint comme tu es saint. J'ai envie de m'approcher plus de toi. J'ai envie de plus de ta présence dans ma vie. J'ai envie, Seigneur, qu'il y ait toujours plus de tes pensées. J'ai envie d'aimer ce que tu aimes. J'ai envie d'être comme tu es. Et j'ai envie d'être ces imitateurs que tu cherches, de qui tu es toi, Seigneur. Alors viens par ton esprit. Et fais ton œuvre en nous, Seigneur.